Chapitre 10. Un phare dans la nuit. Les yeux écarquillés, la servante semblait plus habituée à pétrir de la pâte à pain qu'à batailler contre plusieurs rangées de minuscules boutons. Quand elle eut enfin fini de fermer la robe d'équitation vert foncé d'Elaine, la brave fille s'inclina, puis recula en haletant. À cause de l'effort, ou parce qu'elle était face à la fille héritière. Difficile à dire, ça. La bague au serpent à la main gauche d'Elaine y était peut-être aussi pour quelque chose. En droite ligne, 8 lieues seulement séparaient le manoir de la maison Matérine du fleuve Erinin et de sa foisonnante activité commerciale. Mais quand il fallait traverser les monts Chichen, le seul chemin possible pour quiconque ne savait pas voler, la distance augmentait considérablement. Du coup, les gens du coin voyaient plus souvent du bétail en transhumance du Murandi que des visiteurs humains, et encore plus rarement une visiteuse qui combinait les privilèges d'une fille héritière et d'une Aes Sedai. Pour certaines servantes, ce qui aurait dû être un honneur se révélait écrasant. Pour plier la robe de chambre bleue et la ranger dans un coffre de voyage en cuir, Elsie avait mis si longtemps qu'Elaine avait failli la lui arracher des mains. Au début de la nuit, la fille héritière avait affreusement mal dormi. Ça s'était arrangé ensuite, mais en conséquence, elle s'était réveillée tard. Là, elle se sentait très excitée de repartir pour Kemlin. Depuis qu'on assiégeait la capitale, c'était la 5e nuit qu'elle passait hors de ses murs. À chaque excursion, elle consacrait une journée à visiter 3 ou 4 manoirs, voire 5, appartenant à des femmes et des hommes liés par le sang ou par serment à la maison de Trakand. Chaque visite lui prenait un temps fou. Même si la pression du temps était terrible, elle devait toujours donner d'elle-même la meilleure image possible. Pour voyager, une tenue d'équitation s'avérait indispensable, sinon on arrivait fripé et froissé. Mais durant le séjour, qu'il dure quelques heures ou plus longtemps, il était impératif de se changer. Une perte de temps? Ces acrobaties pour passer d'une tenue à l'autre? Bien entendu que non. Des vêtements de voyage laissaient penser à une situation d'urgence, voire à une fuite, alors que la couronne de fille héritière et une robe impeccable, grâce à un entretien régulier et des coffres assez grands, donnaient un sentiment de confiance et de force. Histoire d'étayer cette impression, Elaine aurait bien amené Essande, sa dame de compagnie, si elle avait cru capable de voyager dans des conditions extrêmes. Mais sa lenteur, peut-être normale à son âge, lui aurait donné envie de hurler. Pourtant, Essande n'aurait pas pu traîner davantage que la toute jeune Elsie. La servante maladroite présenta son manteau vermeil doublé de fourrure à la future reine d'Andorre, puis elle le lui jeta sur les épaules, au lieu de l'endraper. Même si des flammes crépitaient dans la cheminée, la chambre était glaciale. Depuis peu, Elaine ne parvenait plus à ignorer les intempéries au prix d'un simple effort de volonté. Multipliant les révérences, Elsie demanda à sa majesté si elle devait faire venir les hommes chargés de transporter les coffres. La première fois que la servante l'avait appelée ainsi, Elaine avait expliqué qu'elle n'était pas encore reine, justement. Malgré ses efforts, Elsie répugnait toujours à s'adresser autrement à la fille héritière. Et au fond, ce n'était pas un mal. Même si ce n'était pas protocolaire, Elaine appréciait qu'on reconnaisse son droit au trône, et elle aurait été ravie qu'on l'appelle parfois « princesse », bien que ce titre datât terriblement. Ce matin, épuisée, elle ne pensait qu'à une chose, rentrer chez elle. Après avoir étouffé un bâillement, elle confirma à Elsie qu'elle pouvait aller chercher les hommes, et se tourna vers la porte l'embrisser. La servante se précipita pour l'ouvrir. En flânant, Elaine aurait fait 2 fois plus vite, puis elle s'inclina encore et finit par se relever. Tandis qu'elle enfilait ses gants rouges, la jupe de soie fendue d'Elaine émit des froufrous, où s'entendait un agacement certain. Si cette fille l'avait retardée une seconde de plus, la fille héritière aurait pu hurler à la mort. Avant qu'Elaine ait fait 3 pas, ce fut Elsie qui poussa un cri horrifié, qui semblait arraché à sa gorge par un assassin. Se retournant, la fille héritière s'unit à la source authentique et sentit le Saïdar l'emplir d'une plénitude à nul autre pareille. Immobile sur le tapis étroit qui composait un chemin sur les dalles marron clair, Elsie, les 2 mains plaquées sur la bouche, sondait l'extrémité gauche du corridor. À l'intersection, 2 couloirs transversaux partaient dans des directions opposées, mais il n'y avait personne en vue à cet endroit, ni ailleurs.
« Que se passe-t-il, Elsie ? »
demanda Elaine, plusieurs tissages en cours de formation. ça allait d'un simple filet d'air à une boule de feu capable de démolir la moitié des murs. D'une humeur exécrable, elle rêvait de se défouler en cassant du matériel. Frapper avec le pouvoir, quel délice! Dernièrement, ses dispositions fluctuaient un peu, c'était le moins qu'on pouvait dire. Tremblante, elle s'y regarda par-dessus son épaule. Écarquillée depuis le début, ses yeux menaçaient à présent de jaillir de leurs orbites. Histoire d'étouffer un nouveau cri, elle gardait les mains plaquées sur sa bouche. Les cheveux et les yeux noirs, grandes et dotées d'une poitrine opulente, cette servante vêtue de la livrée gris et bleu de la maison Materine n'avait plus rien d'une gamine. Alors qu'elle devait avoir 4 ou 5 ans de plus que la fille héritière, son comportement incitait à la considérer comme une gosse.
« C'était quoi, Elsie ? Et ne réponds pas rien, je t'en prie. On dirait que tu as vu un fantôme.
C'est le cas. »
Pour oublier le titre d'Elaine, fallait-il que la servante soit perturbée.
« Dame Elaine, la grand-mère du seigneur Hydemoon. Quand elle est morte, j'étais petite, mais je me souviens que le seigneur lui-même marchait sur des œufs tant elle avait mauvais caractère. Les servantes défaillaient quand elle les regardait, les nobles visiteuses frémissaient et les seigneurs eux-mêmes n'en menaient pas large. Tout le monde la redoutait. Eh bien, elle se tenait là, devant moi, le regard jetant des étincelles. »
Elsie s'interrompit et Elaine éclata de rire. L'expression d'un certain soulagement, rien de plus. Au moins, l'âge à noir ne l'avait pas suivi jusqu'à la demeure du seigneur Hydemoon. Aucun assassin ne la guettait, et pas une sœur loyale à Elaïda ne menaçait de la ramener de force à Tarvalon. Parfois, elle voyait en rêve ces catastrophes qui arrivaient toutes en même temps. Comme toujours, elle se sépara de la source à contre-cœur. Quel vivier de joie et d'enthousiasme! La maison Materine la soutenait, mais si elle saccageait tout, le seigneur Hydemoon risquait d'en prendre ombrage.
« Les morts ne peuvent pas faire de mal aux vivants, Elsie. »
Des propos d'autant plus consolants qu'elle avait ri au nez de la fille, sans parler de l'envie de lui frictionner les oreilles. À cette idiote.
« Ils n'appartiennent plus à ce monde et ne peuvent plus rien toucher, les vivants compris. »
Elsie acquiesça, puis se fendit d'une nouvelle révérence. À voir ses yeux ronds et ses tremblements, elle n'était pas convaincue. Mais la fille héritière n'avait pas le temps de la materner pendant des heures.
« Va chercher les porteurs pour mes bagages. » Et ne t'inquiète plus à cause des fantômes. »
Sur une dernière révérence, la servante détala, se retournant de temps en temps pour vérifier que Dame Elaine ne la suivait pas. Un fantôme. Cette fille était vraiment stupide. Ni grande ni puissante, la maison Materine avait néanmoins une très longue histoire. Du coup, l'escalier d'honneur qui conduisait au hall d'entrée était large et flanqué de rampes en marbre. Dans le hall lui-même, très vaste, la lumière des lampes à déflecteurs accrochées à la voûte à 20 pieds de haut se reflétait sur les dalles grises et bleues du sol. Les dorures brillaient par leur absence, les incrustations se comptaient sur les doigts des deux mains, mais des armoires et des coffres joliment sculptés s'alignaient le long des murs par ailleurs ornés de 2 tapisseries. Une scène de chasse, la traque de léopards à cheval, un passe-temps au mieux risqué, et l'illustration d'un moment historique où des femmes présentaient une épée à la première reine d'Andorre. La fierté des Materines, même si nul n'aurait su dire si c'était arrivé ou non. Avienda était déjà en train de faire les 100 pas. En la voyant, Elaine ne put retenir un soupir. Elles auraient partagé une chambre, si ça n'avait pas insinué que la maison Materine n'était pas en mesure de recevoir 2 visiteuses de marque. Hélas, Avienda n'arrivait pas à comprendre que la fierté d'une maison était inversement proportionnelle à sa taille. Souvent, une maison mineure n'avait pas d'autre trésor. La fierté, une notion que Layel aurait dû pouvoir comprendre, puisqu'elle en était l'incarnation même. Droite comme un i, encore plus grande qu'Elaine, Avienda portait sur les épaules un épais châle noir et un fichu retenait en arrière sa belle crinière rousse. Malgré son jeune âge, 1 an de plus que la fille héritière, on eût dit une matriarche dans toute sa splendeur. Parmi les matriarches, celle qui savait canaliser semblait souvent bien plus jeune que les autres, et Avienda avait toute la dignité requise. Dans sa version publique, en tout cas. En privé, les deux amis se permettaient des fous rires plus souvent qu'à leur tour. En matière de bijoux, Avienda, très sobre, arborait un long collier d'argent du Candor, une broche d'ambre en forme de tortue et un large bracelet d'argent. Les matriarches trimbalaient tout un lot de colliers et de bracelets, mais elle n'en était pas encore une. Une apprentie, seulement. Avienda, être seulement quelque chose? Elaine n'aurait jamais pensé à elle ainsi. Mais c'était comme ça. Souvent, elle avait l'impression que les matriarches la considéraient elle aussi comme une apprentie, ou peut-être une élève. Une idée stupide, sans doute, mais dès qu'Elaine eut atteint le pied de l'escalier, Avienda tira sur son châle, puis demanda
« Tu as bien dormi ?»
Le ton était calme, comme toujours, mais de l'inquiétude voilait le regard de Lael.
« Tu ne t'es pas fait apporter du vin pour t'aider à t'endormir, j'espère ?»«
Au dîner, je me suis arrangé pour que ton vin soit coupé d'eau, mais j'ai vu que tu lorgnais la carafe. »«
Non, maman, »
répondit Elaine.
« Pas de vin au coucher. Et rassure-toi, maman. » Je me demandais seulement où a Edmund dégoté un si bon cru. Le coupé d'eau était un crime. Au fait, avant le coucher, j'ai bu du lait de chèvre.
Depuis le début de sa grossesse, ce breuvage lui donnait la nausée. Dire qu'elle l'adorait avant. L'indignation faite à Yael, Avienda plaqua les poings sur ses hanches. Devant ce spectacle, la fille héritière éclata de rire. La grossesse n'était pas sans inconvénient, il fallait l'avouer. Les sautes d'humeur, une certaine fragilité des seins, une forme de fatigue permanente, mais se faire materner sans cesse restait le pire. Au palais, tout le monde savait qu'elle attendait un bébé. Grâce aux visions de Mine et à sa tendance à bavarder, pas mal de gens l'avaient appris. Avant elle. Même dans son enfance, Elaine aurait juré qu'on ne l'avait jamais autant couvée. Stoïque, elle supportait tout avec grâce, tant que ça ne lui pesait pas trop. En général, c'était le cas. Au fond, on essayait seulement de l'aider. Cela dit, elle aurait aimé que toutes les femmes de sa connaissance cessent de croire que la grossesse l'avait rendue idiote. Presque toutes les femmes de sa connaissance. Et celles qui n'avaient jamais eu d'enfant étaient les pires. Quand elle pensait à son bébé, Elaine regrettait souvent que Mine n'ait pas précisé le sexe, ou qu'Avienda et Birgit ne se soient pas mieux souvenus de ses propos. Hélas, les trois femmes étaient plus qu'éméchées ce soir-là, et Mine avait quitté le palais avant qu'elle ait pu l'interroger. Bien entendu, penser à l'enfant l'incitait à songer à Rand, et vice-versa. L'un n'allait pas sans l'autre, comme le lait et la crème. Rand lui manquait atrocement, et ça n'était pas logique, puisqu'une part de lui, la sensation de sa présence, rôdait en permanence dans un coin de son esprit. Sauf quand elle occultait le lien, exactement comme avec Birgit, sa championne. Mais le lien avait ses limites. Pour l'heure, Rand était quelque part à l'ouest, trop loin pour qu'elle puisse en dire beaucoup plus, sinon qu'il vivait toujours. S'il avait été grièvement blessé, elle l'aurait senti, mais à part ça... D'ailleurs, voulait-elle vraiment savoir ce qu'il faisait? Après l'avoir quitté, il était resté longtemps au sud, très loin là aussi. Ce matin, il avait voyagé en direction de l'ouest. Le sentir dans une direction, puis brusquement dans une autre, très distante de la première, était des plus déconcertants. Poursuivait-il des ennemis? Des ennemis le traquaient-ils? Il y avait des milliers de possibilités. Elaine espérait qu'il avait voyagé pour une raison mineure. Il mourrait avant elle, ça ne faisait aucun doute. Les hommes capables de canaliser succombaient vite à cause de la souillure. Mais elle voulait le garder aussi longtemps que possible.
« Il va bien, »
dit Avienda, comme si elle pouvait lire les pensées de son amie. Depuis qu'elle s'était adoptée, devenant première sœur, les deux jeunes femmes avaient une sorte de connexion mentale. Mais ça n'allait pas aussi loin que le lien qu'elle et Mine partageaient avec Rand.
« S'il ose se faire tuer, je lui couperai les oreilles !»
Elaine sursauta, puis éclata encore de rire. D'abord surprise, Avienda l'imita. La remarque n'était pas si drôle que ça, sauf pour une Aiel. En matière de sens de l'humour, la première sœur d'Elaine battait tous les records de bizarrerie. Pourtant, la fille héritière ne parvint pas à reprendre son sérieux. Et sa compagne n'y réussit pas davantage. Tremblant d'hilarité, elles s'étreignirent. La vie était vraiment étrange. Quelques années plus tôt, si quelqu'un avait dit à Elaine qu'elle partagerait un homme avec une rivale, non, deux en réalité, elle aurait crié à la folie furieuse. La seule idée lui aurait paru indécente. Aujourd'hui, elle aimait Avienda autant que Rand, bien que d'une manière différente. Et Lael aimait le jeune homme autant qu'elle. Nier cette réalité serait revenu à nier Avienda, et ça se révélait aussi impossible que de sortir de sa propre peau. Les Aiel, qu'elles soient sœurs ou amies, épousaient souvent le même homme, sans lui demander son avis en général. Elaine épouserait Rand, tout comme Avienda et tout comme Mine. Quoi qu'en dise ou qu'en pense le monde, ce serait ainsi, à condition qu'il vive assez longtemps. Soudain, Elaine redouta que son rire vire abruptement aux larmes.
« Lumière, je t'en prie, ne me laisse pas devenir une de ces femmes enceintes qui pleurent sous n'importe quel prétexte. »
Changer d'humeur en permanence était déjà assez agaçant. À certains moments, elle se sentait tout à fait normale,
mais à d'autres, elle aurait juré être un ballon qui dévale les marges d'un escalier sans fin. Comme ce matin, par exemple.
« Il va bien, et ça continuera »,
souffla Vienda, l'air farouche, comme si elle entendait éliminer tous ceux qui menaçaient le dragon réincarné. Du bout d'un index, Elaine chassa une larme de la joue de Layel.
« Oui, il va bien, et ça continuera »,
répéta-t-elle. Hélas, les deux jeunes femmes ne pouvaient pas éliminer le Saïdin, dont la souillure, un jour ou l'autre, finirait par prendre la vie de leur bien-aimé. Quand un battant de la grande porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air glacial, la lumière des lampes vacilla brièvement. Sans se lâcher les mains, les deux sœurs s'écartèrent l'une de l'autre. En un clin d'œil, Elaine afficha l'impassibilité requise chez une Aes Sedai. Pas question que quelqu'un la voie, apparemment, chercher du réconfort dans une étreinte. Une reine, ou toute femme résolue à le devenir, ne devait jamais afficher la moindre faiblesse en public. À son sujet, il courait assez de rumeurs, bonnes ou mauvaises, pour qu'elle n'en rajoute pas. Bienveillante, cruelle, équitable, arbitraire, généreuse, avare. Sur elle, on racontait tout et son contraire. Au moins, ses fantaisies s'équilibraient. En revanche, un récit montrant la fille héritière dans les bras d'une amie risquait d'ajouter la notion de peur à cet inventaire. Et si ses ennemis la pensaient effrayée, il se sentirait pousser des ailes. Comme la boue, une réputation de lâcheté vous collait aux semelles jusqu'à la fin des temps. Impossible de s'en débarrasser. Dans l'histoire, on mentionnait des femmes privées du trône du lion, qui leur revenait, pour des raisons de ce genre. Pour qu'un règne soit un succès, la compétence était requise, et la sagesse ne pouvait pas nuire. Par le passé, des femmes qui manquaient des deux avaient accédé au pouvoir, et régnaient pas si mal que ça, avec du recul. Mais en Andorre, peu de gens auraient soutenu une poltronne. Et cela, Elaine n'avait aucune envie qu'il soit dans son camp. L'homme qui approcha pour refermer le battant n'avait qu'une jambe, et remplacer l'autre par une béquille. À force de frotter contre le bois, la manche de sa lourde veste en laine en était toute élimée. Ancien militaire aux larges épaules, Fridwin Ross gérait le domaine du seigneur Aedmund, avec l'aide d'un clerc grassouillet qui avait sursauté en voyant la fille héritière pour la première fois. Ébahi de découvrir qu'elle portait en sus une bague au serpent, il s'était replongé dans ses grands livres comptables dès qu'il était apparu qu'elle n'attendait rien de lui et n'avait aucune intention de lever un impôt spécial sur les revenus du domaine. Maître Ross aussi avait été troublé par la bague au serpent. En revanche, il avait souri chaleureusement à la fille héritière, avant de regretter de ne plus pouvoir chevaucher avec elle à cause de son handicap. Une déclaration sincère qui avait convaincu Elaine. Si ce type avait été un menteur, Aedmund et le gros clerc auraient déjà été sur la paille. Aucun risque donc qu'il colporte des ragots. Malgré sa béquille, il se fendit d'une courbette pour Elaine et d'une autre pour Avienda. Au premier abord surpris par Layel, il avait très vite mesuré l'amitié qu'il alliait à Elaine. Une raison d'accepter la jeune Layel, même s'il ne se fierait jamais vraiment à son peuple. Mais on ne pouvait pas tout demander.
« Ma reine, les hommes attachent déjà vos bagages sur les chevaux de bas »,
annonça-t-il. S'adressant à Elaine, Ross lui donnait toujours du « majesté » ou du « ma reine ». Dès qu'il s'agissait de son escorte, il se montrait plus dubitatif. Un toussotement lui permettant de dissimuler son trouble, il enchaîna.
« Les hommes que nous affectons à votre sécurité ont les meilleures montures possibles. Les types jeunes en majorité, avec quelques gars plus expérimentés, mais tous savent à quel bout de la hallebarde se trouve le fer. J'aurais aimé vous allouer plus de soldats, hélas. Je vous ai expliqué pourquoi c'est impossible. Quand le seigneur Aedmund a entendu dire qu'on vous disputait la couronne, qui vous revient de droit, il a décidé de ne pas attendre le printemps. Avec la majorité des hommes du coin, il est parti pour Kemlin. Depuis, nous avons eu deux ou trois tempêtes de neige, mais s'il a eu un peu de chance dans l'école, il doit déjà être à mi-chemin de la capitale. »
Un discours optimiste. Comme Elaine, Ross savait qu'avec un peu de malchance dans cette terrible col, Aedmund et ses soldats pouvaient être déjà morts.
« La maison Matérine a toujours soutenu la maison Trakande, »
dit Elaine.
« Et je suis sûr qu'il en sera toujours ainsi. J'apprécie la loyauté du seigneur Aedmund, maître Ross, et la vôtre aussi. »
Fine mouche, Elaine n'insulta pas la maison Matérine ni son représentant en proposant une récompense. Le grand sourire de l'intendant signala qu'il avait pour sa part tout ce qu'il désirait en termes de gratification. Si c'était mérité, la maison Matérine serait récompensée, mais en la matière, on ne se livrait pas à des négociations de marchands de tapis. Sa béquille martelant les dalles du sol, maître Ross accompagna Elaine jusqu'à la porte, puis sur le perron, où des serviteurs attendaient avec une coupe de vin chaud, le coup de l'étrier, comme on disait,
que la fille héritière refusa poliment. Avant de s'être adaptée au froid mordant, elle entendait garder les mains libres pour resserrer les pans de son manteau. De toute façon, Avienda aurait trouvé un moyen de l'empêcher de boire. En revanche, après s'être enveloppée de son châle, sa seule concession au mauvais temps, Layel accepta la boisson. Bien entendu, elle était insensible au frima, une astuce que son ami lui avait apprise. Tentant d'y recourir, la fille héritière constata, non sans surprise, que ça fonctionnait. Pas complètement, mais elle ne se gelait plus sur pied. Dans un ciel dégagé, le soleil brillait au-dessus des montagnes, mais des nuages noirs pourraient l'occulter à n'importe quel moment. Dans ces conditions, mieux valait atteindre le plus tôt possible leur destination du jour. Se montrant à la hauteur de son nom, le grand ongre noir d'Elaine, cœur de feu, piaffait et hennissait, l'écume à la bouche, à croire qu'il n'avait jamais été harnaché de sa vie. Comme de juste, la jument grise d'Avienda avait décidé de l'imiter. Renaclant dans la neige très profonde, elle tentait d'aller un peu partout, sauf là où la palefrenière voulait la conduire. Une monture un peu trop nerveuse pour sa sœur, au goût d'Elaine, mais Avienda avait insisté pour l'avoir. Tout ça parce que son nom, Siswai, signifiait « lance » dans l'ancienne langue. À première vue compétente, les palefrenières paraissaient convaincues qu'on ne pouvait pas rendre sa monture à quelqu'un avant de l'avoir calmée. Non sans mal, la fille héritière parvint à ne pas leur crier qu'elle montait cœur de feu bien avant qu'elles aient posé un œil sur lui. L'escorte d'Elaine était déjà en selle, pour éviter de piétiner dans la neige. Une vingtaine de gardes en veste rouge à col blanc, plastron et casque brillant de la garde de la reine. Les doutes de Maître Ross tenaient sûrement à quelques détails inhabituels. Comme les pantalons rouges, dotés de deux bandes blanches verticales, les vestes étaient en soie et les chemises, dessous, arboraient de la dentelle au col et aux poignets. Des tenues de parade? Ou la coquetterie d'un détachement exclusivement féminin? Dans les métiers des armes, on ne trouvait pas beaucoup de femmes, sauf dans les escortes de caravanes et plus rarement encore dans les armées en temps de guerre. Jusqu'à ce qu'elle en ait créé un, Elaine n'avait jamais entendu parler d'un groupe de soldats exclusivement féminins, à part les promises de la lance, bien entendu, mais avec les aïels, rien n'était jamais normal. Cette initiative, Elaine espérait bien que les gens la prendraient pour un caprice de sa part. Pensez, toutes ces dentelles et cette soie. Avant d'en affronter une, les hommes sous-estimaient les femmes qui portaient une arme. Pire encore, leurs propres sœurs avaient tendance à les considérer comme des idiotes ou des folles. En règle générale, les gardes du corps s'échinaient à paraître assez féroces pour qu'on ait aucune envie de se frotter à eux. Entourée de ses gardes féminins, la fille héritière aurait l'air d'une proie facile aux yeux de ses ennemis. C'était voulu, et elle pariait que les ennemis en question, une fois en déroute, regretteraient amèrement leurs préjugés. À l'avenir, elle comptait renforcer le côté esthétique des uniformes, pour induire davantage en erreur ses ennemis, bien sûr, et renforcer le sentiment d'unicité de ses femmes. En ce qui la concernait, elle n'avait aucun doute. Garde de caravane ou quêteuse du corps, toutes ces recrues avaient été choisies pour leurs compétences, leur expérience et leur courage. Mettre sa vie entre leurs mains ne l'inquiétait pas. D'ailleurs, elle l'avait déjà fait. Une mince jeune femme, les nœuds d'or de lieutenant sur l'épaule de sa veste rouge, salua la fille héritière en se plaquant une main sur le cœur. Son ongre rouan secoua la tête, faisant sonner les clochettes d'argent de sa crinière, sa façon à lui de saluer.
« Nous sommes prêtes, madame, et la voie est libre. »
Kasey Raskovny avait servi comme garde de caravane. Son accent de Larafel n'était pas celui des classes supérieures, mais elle parlait d'un ton ferme et plein d'autorité. En s'adressant à Elaine, elle utilisait le titre approprié à ce jour, et elle continuerait jusqu'au couronnement. Cela dit, elle était résolue à combattre pour que le trône revienne à la fille héritière. Homme ou femme, très peu de membres de la garde, ces derniers temps, restait en poste s'il ne partageait pas cet objectif.
« Les hommes de Maître Ross sont prêts aussi, »
ajouta Kasey.
« Enfin, autant qu'ils peuvent l'être. »
L'intendant tout sauta, très sauta sur sa béquille, puis baissa les yeux sur la pointe de son unique botte. Elaine vit du premier coup d'œil ce que Kasey voulait dire. Soucieux de fournir une escorte à la future reine, Ross avait sélectionné 11 hommes du manoir, les équipant de hallebardes, d'épées courtes et de pièces d'armure dépareillées. En particulier, 9 antiques casques sans protection faciale et 7 plastrons cabossés, de quoi les rendre plus vulnérables qu'autre chose. Un peu hirsutes dans leur pelage d'hiver, les montures semblaient convenables, mais 8 de leurs cavaliers, malgré la capuche relevée de leur manteau, ne parvenaient pas à cacher qu'ils n'avaient pas besoin de se raser plus d'une fois par semaine, et encore. Les types que Maître Ross qualifiait d'expérimentés étaient tout ridés, avec des mains osseuses. À eux tous, ils auraient eu du mal à reconstituer une denture complète. L'intendant n'avait pas menti, ni essayé de former une escorte au rabais. Comme il l'avait dit, Haed Moon avait recruté tous les hommes valides et réquisitionné les meilleurs équipements. Partout, c'était la même histoire. Dans tout le pays, des hommes en bonne santé et vigoureux tentaient de rejoindre Elaine à Kemlin. Là où en étaient les choses, aucun n'arriverait en ville avant que tout soit joué. Et elle pourrait chercher des jours durant sans tomber sur un de ces groupes. Cela dit, les 11 types tenaient leur hallebarde comme s'ils savaient s'en servir. Rien d'extraordinaire là-dedans, tant qu'on était en selle, immobile, avec l'embout de l'arme coincé dans un étrier. La fille héritière elle-même aurait pu faire illusion.
« Ma sœur, » souffla Avienda, « nous avons visité 19 de ces manoirs. »
Elle approcha d'Elaine jusqu'à ce que leurs épaules se touchent.
« En comptant cela, nous avons rassemblé 205 gamins trop jeunes pour mourir, ou vieillards qui devraient s'être rangés des lances depuis longtemps. Comme tu connais ton peuple et vos coutumes, j'ai hésité à poser la question, mais tu crois que ça vaut la peine ?»«
Oh que oui, ma sœur !»
Comme Avienda, Elaine avait murmuré pour que Maître Ross et les autres ne l'entendent pas. Même les gens les mieux intentionnés pouvaient se rebiffer s'ils s'avisaient qu'on les manipulait. Surtout quand les renforts qu'ils avaient si péniblement rassemblés et si généreusement proposés ne correspondaient pas, en réalité, à ce que cherchait la personne qui les sollicitait et les avait acceptés.
« Au village, près du fleuve, tout le monde sait que je suis ici. Même chose dans la moitié des fermes, à des lieues à la ronde. Avant midi, l'autre moitié sera au courant, et demain, ce sera le tour du village suivant et de beaucoup d'autres fermes. En hiver, les nouvelles circulent lentement, surtout en Andorre. Ces gens savent que je revendique le trône, mais si je suis couronné demain, ou si je meurs, ils risquent de ne pas l'apprendre avant le milieu du printemps, voire le début de l'hiver. Aujourd'hui, ils sont sûrs qu'Elaine Trakand est vivante, qu'elle est venue au manoir en robe de soie, couverte de bijoux, et qu'elle a rallié des hommes à son étendard. À 10 lieues d'ici, des gens prétendront m'avoir vu et m'avoir serré la main. Très peu d'hommes et de femmes sont capables de mentir ainsi sans parler en faveur de la personne qu'ils affirment avoir rencontrée. Et quand on parle en faveur de quelqu'un, on finit par le soutenir pour de bon. En 19 lieues dans ce pays, des gens raconteront qu'ils ont vu la fille héritière. Chaque jour, ces récits se répandront comme une tache d'encre. Si j'avais le temps, j'irais dans tous les villages d'Andorre. Sur ce qui se passera à Kemlin, ça n'aura aucune influence. Mais ça changera tout une fois que j'aurai gagné. »
Elaine refusait d'envisager une autre possibilité, surtout quand elle songeait à qui porterait la couronne si elle échouait.
« Beaucoup de reines du passé ont consacré les premières années de leur règne à rassembler leurs sujets derrière elles. Certaines n'ont pas réussi, mais aujourd'hui, des temps extraordinairement difficiles se profilent. Dans un an, il faudra que tous les Andoriens me soutiennent. Pour les fédérer, je ne peux pas attendre d'être sur le trône. En vue de ces temps difficiles, je dois être prête, et le pays aussi. Quoi qu'il arrive, c'est à moi de le préparer. »
Avienda sourit, puis caressa la joue de sa sœur d'élection.
« Avec toi, je vais en apprendre beaucoup plus sur ce que doit être une matriarche. »
À son grand courroux, Elaine en rougit d'embarras, au point d'en avoir les joues en feu. Au fond, les sautes d'humeur étaient peut-être pires que le maternage. Et dire qu'elle allait être ainsi pendant des mois. Pas pour la première fois, elle éprouva du ressentiment envers Rand. Si elle était dans cet état, c'était à cause de lui. Certes, elle avait encouragé à faire ce qu'il fallait pour ça, voire aider. Mais ce n'était pas la question. Après, il s'en était allé avec un sourire suffisant sur les lèvres. Suffisant était peut-être exagéré, mais voir les choses ainsi la défoulait. Qu'il passe donc du rire aux larmes d'heure en heure et on verrait s'il aimait ça.
« Je ne réfléchis pas logiquement, »
songea Elaine, agacée. Eh bien, ça aussi, c'était la faute de Rand. Les palefrenières, ayant décidé que Cœur de Feu et Sissoy étaient assez calmes pour être montés par des dames, Avienda prit appui sur le support de pierre, puis se hissa en selle, avec bien plus de grâce qu'à ses débuts. Une fois en place, elle tira sur sa jupe pour cacher du mieux possible ses jambes gainées de bas noir. En matière de jambes, elle s'entêtait à penser que les siennes valaient mieux que celles de n'importe quel cheval. Mais elle était au moins devenue une cavalière acceptable. Pourtant, elle continuait à paraître surprise quand Sissoy consentait à lui obéir. Dès qu'Elaine fut en selle, Cœur de Feu voulut lui mener la vie dure, mais elle le reprit en main avec une grande assurance, et peut-être un peu plus de fermeté que d'habitude. Toujours fluctuante, son humeur la plongeait à présent dans un océan d'inquiétude à propos de Rand. Dans l'incapacité d'assurer sa sécurité, elle pouvait au moins se consoler en imposant sa volonté au seul mal qu'elle avait sous la main. Au pas, la seule possibilité à cause de la neige, 6 gardes royales ouvrirent le chemin. Le reste de l'escorte se rangea derrière Elaine et Avienda, la dernière palefrenière tenant la longe des chevaux de bas. Les recrues de Ross, à la traîne, avaient elles aussi un animal de bât, un malheureux canasson au crin emmêlé, chargé de ballots, de casseroles et même d'une demi-douzaine de poulets vivants. Dans le village de Chaumière, quelques vivats retentirent, et ça continua lorsque la colonne traversa le pont qui enjambait un cours d'eau sinueux gelé.
« Hélène d'Ulysse ! Dracande ! Dracande ! Mathérine vaincra !»
Hélène vit cependant une femme qui pleurait contre la poitrine de son mari, lui aussi en larmes, et une autre qui tournait le dos aux cavaliers, refusant de les regarder. Le cœur serré, la fille héritière espéra pouvoir leur envoyer bientôt leur fils. Sauf si elle s'y prenait très mal, il y aurait peu de violence à Kemlin, mais pas aucune, hélas. Et dès que la couronne de roses serait à elle, les guerres commenceraient. Au sud, les Séanchaniens, et au nord, les Myrdraal et les Trollocs, guettant le début de Tarmon Gaidon. Dans un futur très proche, Andorre perdrait beaucoup de fils. Que la lumière la brûle, elle n'allait pas encore pleurnicher. Après le pont, la route commençait à monter, serpentant entre des pins, des sapins et des lauréoles. Heureusement, jusqu'à la vallée qu'il visait, il y avait à peine une demi-lieue. Dans la neige qui brillait au soleil, on distinguait toujours les empreintes des chevaux venus la veille, de l'endroit où un portail avait laissé un profond sillon dans la poudreuse. L'air aurait pu être plus proche du manoir, mais quand on ouvrait un portail, le risque de nuire à de pauvres gens ne devait jamais être sous-estimé. Lorsqu'ils s'engagèrent dans la vallée, l'aura du Saïdar enveloppait déjà Avienda. La veille, c'était elle qui avait tissé le portail conduisant à leur dernière halte, en fin d'après-midi, au domaine de la maison Mathérine. Près de 40 lieues avalées en un clin d'œil. Du coup, Layel s'occuperait aussi du portail qui les ramènerait à Kemlin. Voir sa première sœur auréolée de pouvoir déprima un peu Hélène. Celle qui ouvrait le premier portail, à Kemlin, finissait toujours par prendre en charge les autres, parce qu'elle connaissait le terrain sur chaque aire d'arrivée. Lors de leurs 5 excursions, Avienda avait demandé à ouvrir le premier portail, pour s'entraîner, comme elle le prétendait. Mais Hélène, après tout, avait tout autant besoin de s'exercer. Et si... Oui, c'était sans doute ça. Avienda voulait éviter qu'elle canalise le pouvoir, surtout pour un tissage important, afin de l'aménager, bien entendu, parce qu'elle était enceinte. Le tissage qui avait fait d'elle des sœurs nées de la même mère n'aurait pas pu fonctionner si l'une ou l'autre avait porté un enfant, parce que celui-ci aurait partagé le lien sans être assez fort pour survivre. À part ça, si canaliser avait été proscrit en cas de grossesse, ou simplement déconseillé, une Aes Sedai du palais n'aurait pas manqué de le signaler. Encore que, les sœurs ayant rarement une descendance, elle ne savait peut-être rien sur la question. Malgré ce qu'elle clamait à la face du monde, les Aes Sedai ignoraient beaucoup de choses. À l'occasion, Hélène en avait largement tiré profit. Mais il semblait improbable qu'elle soit ignare sur un sujet si important pour la plupart des femmes. C'était comme si un oiseau avait su manger toutes les sortes de céréales à part l'orge. S'il souffrait de cette lacune, combien d'autres risquait-on de lui découvrir? Les matriarches, en revanche, étaient souvent mères, et aucune n'avait... D'un coup, les inquiétudes au sujet du bébé, du pouvoir, ou de ce que savaient ou non les Aes Sedai, furent expulsées de l'esprit d'Hélène. Quelqu'un canalisait le Saïdar, elle le sentait. Pas Avienda, ni quiconque d'autre dans ces montagnes. Non, nul de si proche. C'était lointain, comme la lumière d'un phare au sommet d'une falaise, vue depuis le grand large. Une falaise impossiblement distante, en fait. Quelle quantité de pouvoir fallait-il canaliser pour qu'elle le sente de si loin? Partout dans le monde, toutes les femmes capables de s'unir à la source devaient pointer un doigt en direction du phénomène. Ce phare était à l'ouest. Dans son lien avec Rand, rien n'avait changé, et elle restait incapable de dire où il se trouvait, à 40 lieues près. Mais elle savait que...
Il est en danger. Avienda, nous devons le rejoindre.
Layel s'arracha à la contemplation de l'ouest. L'aura du Saïdar l'enveloppant toujours, elle avait puisé dans la source aussi profondément que possible, et Lane le sentait. Pourtant, quand elle se tourna vers sa première sœur, Avienda canalisait déjà beaucoup moins de pouvoir.
« Non, il ne faut pas y aller, Hélène. »
Indignée, la fille héritière se tourna sur sa selle pour regarder Layel.
« Tu veux l'abandonner? Face à ça ?»
Personne ne pouvait contrôler tant de Saïdar, y compris le cercle le plus puissant. Pas sans soutien, en tout cas. On parlait d'un Saangreal supérieur à tous ceux qu'on connaissait. Si ce n'était pas une légende, cet artefact aurait pu soutenir un tel exploit. En théorie. Mais toujours selon les rumeurs, aucune femme n'aurait survécu à l'expérience sans un Terangreal conçu spécifiquement pour ça. Et selon toute vraisemblance, il n'en existait pas. En outre, même si elle en avait découvert un, aucune sœur n'aurait pris ce risque. Une pareille quantité de Saïdar pouvait raser une chaîne de montagnes. Aucune sœur, vraiment? Oui, à part celle de l'Aja Noir. Ou pire encore, un des rejetés, voire plusieurs. Il n'y avait pas d'autre possibilité, et Avienda voulait tout ignorer, alors que Rand était impliqué et qu'elle devait le savoir. Les gardes royales, inconscientes du problème, attendaient patiemment sur leur monture. Peu encline à s'inquiéter après la chaleureuse réception au manoir, elle sondait quand même les alentours. À part Kasey, sourcils froncés, qui ne quittait pas Elaine et Avienda du regard. Les deux amis, elle le savait, ne différaient jamais l'ouverture d'un portail. Les hommes de Ross, massés autour du cheval de bas, palpaient les ballots et semblaient se quereller à propos d'un oubli qu'ils se reprochaient mutuellement. Avienda rapprocha encore Siswai de cœur de feu et souffla.
« Nous ne savons rien, Elaine. Est-il en train de danser avec les lances? Ou est-ce autre chose? S'il se bat, quand nous déboulerons, ne risque-t-il pas de frapper avant de nous avoir reconnus? Ou sera-t-il distrait au mauvais moment, laissant à ses ennemis une chance de le vaincre? S'il meurt, nous trouverons ses assassins et nous les tuerons. Mais y aller maintenant, à l'aveuglette, risque de provoquer un désastre. Sauf si nous sommes prudentes, »
dit Elaine, boudeuse. Être si enfantine et le montrer l'enrageait, mais elle n'avait pas d'autre solution. Faire avec ses sautes d'humeur afin qu'elle ne la domine pas était l'unique choix.
« Nous ne sommes pas obligés d'arriver exactement là où il est. »
Touchant sa bourse, Elaine sentit les contours d'une statuette de femme assise en tailleur. Puis elle regarda avec insistance la broche de l'Aiel.
« Avienda, nous avons des angréales, et nous ne sommes pas de 12 agnelles. »
Lumière, voilà qu'elle maugréait, passant de la bouderie à l'irascibilité. En s'unissant, et même avec leur angréal, Avienda et elle ne vaudraient pas mieux que des moustiques, tentant d'éteindre un incendie. Face à ce qu'elle sentait, la comparaison n'avait rien d'exagéré. Cela dit, une piqûre de moustique, au moment idoine, pouvait changer bien des choses.
« Ne me parle pas de la sécurité du bébé. Mine affirme qu'il naîtra en bonne santé, fort comme un roc. Tu l'as affirmé aussi. Donc, je vivrai au moins jusqu'à la naissance de ma fille. »
Une fille, oui, c'était ça qu'elle espérait avoir. Cœur de feu choisit ce moment pour mordre Siswai, qui ne se priva pas de riposter. Un moment, Elaine se concentra sur la tâche délicate de maîtriser son cheval et d'empêcher Avienda de voler dans les airs, tout en assurant Kasey qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Quand ce fut terminé, toute bouderie oubliée, la fille héritière aurait volontiers cogné Cœur de feu entre les deux oreilles. Siswai de nouveau bien en main, Avienda fit comme si rien n'était arrivé. Elle plissa le front, perplexe, mais ça n'avait rien à voir avec leurs démêlés équestres.
« Je t'ai parlé de mon expérience, Arwidéan ?»
Elaine acquiesça, sans dissimuler son agacement. Elle savait tout ça. Toute matriarche potentielle, avant de commencer sa formation, était obligée de traverser un terrain gréal. Pour accéder au statut d'accepté, les novices devaient entrer dans un artefact semblable, mais chez les Aiel, la candidate revoyait toute sa vie, avec une infinité de variantes, dues à des décisions différentes. Un éventail d'avenir potentiel.
Personne ne peut se souvenir de tout ça, Elaine. Des fragments, voilà ce qu'on garde. Je savais que j'aimerais un jour Randaltor.
En public, Laiel avait encore du mal à utiliser le seul prénom du jeune homme.
Et que je le partagerais avec des sœurs épouses. Le reste, c'est une série d'impressions très vagues, dans le meilleur des cas. Une sensation d'alarme, parfois. Si nous le rejoignons maintenant, je sens qu'une catastrophe se produira. L'une de nous mourra, voire les deux, malgré les dires de Mine.
Avienda, prononcer ainsi le nom de Mine? Fallait-elle qu'elle soit inquiète? Ne la connaissant pas très bien, elle parlait de Mine Farchaud, comme il se devait chez les Aiel.
Ou c'est lui qui mourra, à moins qu'un autre drame se produise. Je n'ai aucune certitude. Au fond, si on y va, nous finirons peut-être tous assis autour d'un feu à faire griller des pécaras. Mais dans ma tête, j'entends le son lointain d'une alarme.
Elaine ouvrit rageusement la bouche, puis elle la referma, vidée de sa colère comme une baignoire trouée. Abattue, elle songea que sa première sœur pouvait avoir raison, ou non. Quoi qu'il en soit, son raisonnement était logique depuis le début. Prendre un risque majeur à l'aveuglette pouvait provoquer un désastre. Dans la nuit, le phare brillait de plus en plus fort, et Rand était là, tout à côté. À une telle distance, le lien ne la renseignait pas, mais elle savait. Hélas, elle allait devoir laisser Rand veiller sur lui-même pendant qu'elle s'occupait d'Andorre.
« Sur l'art d'être une matriarche, tu n'as plus rien à apprendre de moi, Avienda, car tu es déjà bien plus sage que moi, plus courageuse aussi, et dotée de plus de sang-froid. Nous retournons à Kemlin. »
Sous cette avalanche de compliments, Avienda rosit. À 16 heures, elle se montrait très sensible, ce qui ne l'empêcha pas d'ouvrir sans tarder le portail, une étroite image d'une cour d'écurie au palais s'élargissant pour former un passage dans l'air. Charriés par le vent, des flocons s'écrasèrent sur les pavés, à plus de 100 lieues de l'endroit où ils tombaient. Elaine sentit de nouveau la présence de Birgit, quelque part dans le palais. Comme souvent ces derniers temps, la championne avait des maux d'estomac et très mal aux cheveux. Parfait. Son humeur s'accordait avec celle de son Aes Sedai.
« Je dois laisser Rand prendre soin de lui-même »,
songea Elaine en franchissant le portail. Combien de fois avait-elle pensé ça? Aucune importance. Si Rand était l'amour et la joie de sa vie, le devoir l'appelait à Kemlyn.